7h sur France Culture, bienvenue et bon réveil à tous. Le journal de Margot Delpierre, bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Les syndicats feront-ils mieux aujourd'hui que le 5 décembre? Une nouvelle grande journée de grève et de manifestation se prépare contre le projet de réforme des retraites. Les précisions à suivre d'Anne-Laure Jumet.
Les 400 salariés de Lubrizol à Rouen attendent de savoir si l'usine de produits chimiques va redémarrer. Elle est arrêtée depuis le 26 septembre et un important incendie.
Au sommet de Paris sur le conflit en Ukraine, le président russe a salué hier soir un pas important vers une désescalade. Son homologue ukrainien lui regrette le peu de résultats. Nous ferons le point. Et la question du jour, Guillaume.
Eh bien, dans une dizaine de minutes, Margot, Macron leaks. Y a-t-il eu une ingérence russe dans l'élection présidentielle française? On posera la question à Kevin Limonier, maître de conférence à l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8.
Les jours passent et se ressemblent pour les usagers des transports. Pour le sixième jour consécutif, le trafic est perturbé à la SNCF. Seulement 20% des TGV et Transiliens circuleront. Air France est obligée d'annuler 25% de ses vols intérieurs. Et à Paris, 10 lignes de métro sont toujours fermées. Perturbations aussi à prévoir dans les transports à Marseille, Bordeaux, Tours et Clermont-Ferrand notamment. Le mouvement social contre le projet de réforme des retraites continue dans de nombreux corps de métiers qui dépassent les transports, avec aujourd'hui donc une nouvelle grande journée de manifestation annoncée à l'appel de la CGT, FO-FSU Solidaire et plusieurs organisations de jeunesse. Les syndicats espèrent marquer le coup pour maintenir la pression et préparer la suite. À Paris, un cortège partira à 13h30 de la place Vauban derrière les Invalides, Anne-Laure Jumet.
Dans la manifestation parisienne, il y aura sans doute moins de monde que jeudi dernier. Certains syndicats l'anticipent déjà. La CGT, qui avait affrété beaucoup de bus le 5 décembre, ne sera pas en mesure financièrement de reconduire le dispositif à l'identique. À la place, il y aura des cortèges dans les villes de la grande couronne parisienne, notamment en Seine-et-Marne. Ce qui, on veut le croire à la CGT, compensera les pertes d'effectifs dans la capitale. Et puis, des manifestations sont organisées aujourd'hui dans des villes qui n'avaient pas mobilisé jeudi dernier. Les syndicats espèrent ainsi faire une nouvelle fois le plein aujourd'hui et même dépasser les scores du 5 décembre, quand entre 806 000 selon la police et 1,5 million selon les syndicats avaient battu le pavé. Et il y aura d'autres journées de mobilisation rapprochées, explique-t-on, à la CGT pour permettre aux salariés du secteur privé de se mobiliser à intervalles réguliers. Ça permet aussi bien sûr de maintenir la pression. On parle déjà de jeudi, au lendemain des annonces d'Édouard Philippe. Une journée à laquelle la CFE-CGC n'exclut pas de participer, alors que le syndicat des cadres n'a pas appelé à manifester aujourd'hui dans l'attente des déclarations du Premier ministre. Tout cela sera décidé demain soir lors d'une nouvelle intersyndicale et le mouvement ne devrait pas s'éteindre cette semaine. Si ça doit durer jusqu'à Noël, eh bien on ira jusqu'à Noël, prévient déjà un syndicaliste.
Et parmi les syndicalistes déterminés, il y a Valérie Sipahi-Malani, secrétaire générale adjointe du SNES, syndicat national des enseignements de second degré. Elle n'est pas convaincue par le gouvernement qui a annoncé la semaine dernière une revalorisation de la rémunération des enseignants, environ 500 millions d'euros par an, via des augmentations de salaires et des primes, mais selon elle, c'est insuffisant.
Nous, on voit pas comment des primes pourraient limiter la casse dans les pensions de retraite, puisque justement, nous, ce qu'on reproche au système actuel, ce n'est pas l'insuffisance de primes, même si nous n'en avons pas beaucoup. Nous, ce qu'on veut, c'est que nos salaires soient revalorisés. Pour que nos salaires soient revalorisés, il faut parler de la manière dont sont conçus nos salaires, et donc il faut avoir une revalorisation du point d'indice de la fonction publique. Donc c'est pas une prime par-ci, par-là, et en général, ces primes, en plus, elles sont données seulement à certains collègues. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que l'ensemble des enseignants voient sa situation s'améliorer. Ça ne peut pas passer par des primes, ça ne peut passer que par des augmentations de salaire conséquentes et par un rattrapage de tout ce que nous avons perdu au fil des dernières années et notamment par le blocage du point d'indice.
En quoi les primes, ce n'est pas pareil qu'une augmentation ?
Les primes, elles sont souvent individualisées. Donc on sait qui touche les primes. Ce sont souvent plus souvent les hommes que les femmes parce qu'ils ont une carrière qui est plus suivie. Les femmes ont des carrières souvent plus hachées à cause des maternités. On sait que ce sont souvent les professeurs qui sont en milieu ou en fin de carrière parce qu'en début de carrière, on a beaucoup de travail pour préparer ses cours, pour s'habituer à son métier, pour prendre son métier en main peu à peu. Et donc il y a des engagements que l'on ne peut pas prendre en début de carrière. Donc quand on nous parle de primes, ce qu'on ne dit souvent pas mais qui est la réalité, c'est individualisation. Et nous ne voulons pas de ça.
Propos recueillis par Hakim Kasmi. Nous reparlerons de la mobilisation avec les invités de Guillaume Erner à partir de 7h40, la cégétiste Sophie Binet et le sociologue François Dubé. Jean-Luc Mélenchon ne fera pas appel. Le député a été condamné hier à 3 mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Bobigny pour rébellion et provocation pendant la perquisition au siège de son mouvement La France Insoumise l'an dernier. Jean-Luc Mélenchon devra aussi payer une amende de 8000 euros. C'est un jugement politique selon l'intéressé. 2 mois et demi après l'incendie de l'usine de produits chimiques Lubrizol, une importante réunion est prévue cet après-midi à Rouen. Le conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques doit décider s'il est favorable ou non à une réouverture partielle de l'usine, un site Seveso. 400 salariés sont au chômage technique depuis l'incendie, Anne-Laure Barral.
C'est une réunion à 50-50 qui aura lieu cet après-midi parce que parmi les 24 membres de ce conseil, il y a des industriels, des personnalités qualifiées, des services administratifs plutôt favorables à la reprise de Lubrizol sous certaines conditions et puis des associations environnementales ou de consommateurs plutôt opposés ainsi que des élus locaux qui ne se voient pas relancer l'activité d'un site alors qu'on ignore toujours ce qui a causé l'incendie. Ils vont donc voter pour ou contre la proposition de la Direction régionale de l'environnement et de l'aménagement, la DREAL de Normandie, qui propose une reprise de l'activité de préparation des lubrifiants. Les produits seraient mélangés, on va dire, mais pas mis en fût ni stockés sur place. Ils seraient transportés par camion-citerne vers un autre site, comme celui de Total Lubrifiant, juste à côté. Le préfet devra ensuite arbitrer en fonction du vote de ce conseil. Il n'est pas obligé de le faire, mais il a toujours dit qu'il ne se voyait pas prendre une autre décision.
Rappelons que la commission d'enquête du Sénat sur la gestion des conséquences de cet incendie a lancé une consultation en ligne. Elle permet de recueillir les témoignages des élus locaux sur les risques industriels. Ils peuvent participer jusqu'au 31 décembre.
7h07 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. Le sommet sur le conflit en Ukraine s'est terminé cette nuit.
Il se tenait hier à l'Élysée en présence du président français, de ses homologues russes et ukrainiens Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky qui se rencontraient pour la première fois et de la chancelière allemande. Résultat, la question des frontières de l'Ukraine reste à résoudre, mais le statut spécial du Donbass va être prolongé en parallèle des échanges de prisonniers et du déminage de la région. Ce conflit a déjà fait 13 000 morts, de profonds désaccords persistent. Bertrand Galli a suivi ce sommet pour France Culture.
Ce n'est pas un conflit gelé, il continue de ravager l'est de l'Ukraine, rappelle Emmanuel Macron. Après plus de 7 heures de discussion, le président français constate des avancées et des points de blocage.
C'est la première fois depuis 3 ans qu'un sommet dans ce format-là se tient. C'est la première fois depuis le mois d'avril que les présidents Zelensky et Poutine se rencontrent. Et la troisième chose, c'est que nous actons des avancées tangibles sur les échanges de prisonniers d'ici la fin de l'année. Et puis, on sait qu'il y a des désaccords.
Notamment sur le calendrier des élections locales dans le Donbass, réclamé par le camp pro-russe, avant même que l'Ukraine retrouve sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire. L'Ukraine s'oppose également à une modification définitive de la Constitution accordant un statut spécial aux populations russophones. Angela Merkel se veut pragmatique. Nous avons fait des choses réalistes. Un cessez-le-feu d'ici la fin de l'année, c'est une ambition, de même que le déminage, observe la chancelière allemande. Les forces armées se retireront des 3 zones disputées d'ici la fin du mois de mars 2020. Vladimir Poutine salue un pas important vers une désescalade. Rendez-vous est pris pour un nouveau sommet dans 4 mois.
Et pendant son passage à Paris, Vladimir Poutine a réagi à l'annonce de l'exclusion de la Russie des JO pour 4 ans et de la Coupe du Monde de foot 2022, décision prise par l'Agence mondiale antidopage hier, qui punit Moscou pour avoir encore triché en falsifiant des données. Les sportifs seront admis mais sous drapeau neutre, il n'y aura pas d'hymne aux Jeux Olympiques et à tout championnat du monde. Le président russe a dénoncé une décision politiquement motivée qui contredit la charte olympique. Un an après la signature d'un nouvel accord de libre-échange, les négociateurs des États-Unis, du Mexique et du Canada se retrouveront aujourd'hui à Mexico pour peaufiner la ratification de ce traité. Il s'agit d'une modernisation de l'ALENA, accord de libre-échange nord-américain, signé il y a 25 ans par l'ancien président américain Bill Clinton. Il avait été désigné prix Nobel de la paix en octobre dernier. Il recevra officiellement cette distinction aujourd'hui. Le premier ministre éthiopien, plus jeune dirigeant d'Afrique à 43 ans, est attendu ce midi à l'hôtel de ville d'Oslo, capitale norvégienne. Abiy Ahmed est récompensé pour son rapprochement spectaculaire avec son voisin érythréen. Mais l'enthousiasme du début n'est plus. Désormais, certains s'interrogent sur sa capacité à relever les défis, Valérie Crova.
Certes, il y a eu l'euphorie qui a accompagné cette poignée de main historique entre le premier ministre éthiopien et le président érythréen Isaias Afewerki. La paix a dégelé les relations diplomatiques entre les deux frères ennemis, mais depuis plus rien, la démarcation de la frontière, source du conflit, n'a toujours pas été réglée. Les postes frontières terrestres se sont refermés. Le régime érythréen, lui, demeure une dictature. Sur le plan intérieur, Abiy Ahmed n'a pas réussi à contenir les tensions communautaire, comme l'ont montré les violences qui ont conduit fin octobre à la mort de 80 personnes en Oromia, la région la plus peuplée d'Éthiopie. Les réformes qu'il avait entreprises, comme la levée de l'interdiction qui pesait sur certains partis politiques, ont été freinées par de vieilles rancœurs ethniques dans un pays marqué par de fortes identités régionales. La récente décision de créer le Parti de la Prospérité, fusion de trois des quatre formations de la coalition au pouvoir, apparaît comme une volonté de renforcer l'unité de l'Éthiopie autour de son leader nobilisé à l'approche d'élections générales prévues en mai prochain.
Valérie Crova. Un avion militaire chilien a disparu des radars hier après avoir décollé de Punta Arenas dans le sud du pays. 38 personnes se trouvaient à bord. Des opérations de recherche sont en cours. Le président chilien Sébastien Piñera se rend sur place. Une douleur insondable, c'est ce que dit ressentir la première ministre néo-zélandaise après avoir appris la mort de 5 personnes dans l'éruption d'un volcan sur une île touristique du nord. 8 autres sont portées disparues sur White Island. Il n'y a plus d'espoir de les retrouver vivantes. 31 personnes sont aussi hospitalisées. En France, le temps sera pluvieux du Calvados à la Charente-Maritime aujourd'hui jusqu'au Loir-et-Cher dans les terres. Ailleurs, ce sera plus calme mais toujours assez gris. En revanche, le ciel sera bien dégagé près de la Méditerranée. Attention aux gelées fréquentes par endroit ce matin. Les températures maximales seront de 6 degrés à Strasbourg, 7 à Lille et Paris, 11 degrés à Bordeaux, 15 à Nice et Ajaccio.